Trainville PM. Politique.
Il n'est pas respectueux d'accueillir au Québec des personnes qui ne réussissent pas à occuper un emploi dans leur domaine de formation. Nous allons mettre fin aux demandes en inventaire en remboursant les montants payés par les candidats pour l'examen de leurs demandes. Il s'agit d'une mesure forte.
Actuellement, il y a un test de connaissance du Canada. Nous, on veut que ce soit un test qui soit en ligne avec la charte québécoise des droits et libertés. Donc, savoir que les femmes sont égales aux hommes, la laïcité, connaître les valeurs québécoises.
Ce test-là va être...
On va y travailler bien.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Wow, mais là, c'est une des questions que j'avais. Là. Quand j'ai commencé l'émission, qu'est-ce que tu veux, le point de presse avait commencé, mais on n'avait pas réponse à toutes les questions. Là, je viens d'entendre le premier ministre Legault dire qu'il va y en avoir un test des valeurs. Hein. On en a beaucoup parlé pendant la campagne électorale. Et juste avant, c'était Simon Jolin-Barrette, donc le parrain du projet de loi qu'il vient de déposer pour en discuter. Paul Journet, éditorialiste à la presse, Carl Bélanger, consultant et stratège. Bonjour à vous deux.
Oui.
Ah, excellent. Bon. Alors, Carl, tu perds rien pour attendre. J'allais dire, première page du Globe and Mail, toute l'histoire de SNC-Lavalin, mais on va y revenir. Alors, Paul, résume-nous d'abord l'essentiel de ce projet de loi sur l'immigration. Là.
Écoute, c'est un projet de loi qui fournit le cadre légal à la Coalition Avenir Québec pour faire ce qu'ils veulent faire, mais t'as pas encore tout à fait le détail. T'sais, l'immigration, on peut la diviser par des questions bien simples. T'as le combien? Combien d'immigrants on accueille, c'est pas là-dedans, c'est dans une autre mesure. Il y a le qui. Là, on sait que la CAQ veut accueillir des candidats qui sont mieux formés pour les besoins du marché du travail, quitte à baisser l'importance du français. C'est pas non plus dans le projet de loi. Ce qu'on fait là-dedans, c'est qu'on change le processus pour aller choisir les gens. Avant, c'était premier arrivé, premier servi. Maintenant, nouvelle formule, ça s'appelle une déclaration d'intérêt. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les candidats intéressés soumettent leur candidature, puis après, on va aller piger celles qui sont les mieux adaptées aux besoins dans main-d'œuvre du Québec, puis on va les sélectionner activement. On va dire, même si tu n'es pas le premier à déposer ta demande, on pense que tu es celui qui convient le mieux à nos besoins du marché du travail, donc on te met en priorité. Mais maintenant, tu sais, tu te souviens, en campagne électorale, on en a beaucoup parlé, c'est les fameux tests de valeur et tests de français.
Oui.
C'est pas dans le projet de loi. Par contre, le projet de loi, il franchit le premier pas. Dans le projet de loi, Québec se donne le pouvoir d'ajouter des conditions. Par exemple, conditions que tu maîtrises le français ou conditions que tu souscrives aux valeurs dites québécoises. Mm-hmm. Donc, Québec se donne ce pouvoir-là de le demander. Mais il y a un gros « si ». C'est que c'est la première étape, ça donner le pouvoir, mais ensuite, tu as besoin de la deuxième et dernière étape, c'est-à-dire le « OK » du fédéral. Et ça, on ne l'a pas encore, donc il y a des négociations à venir. Fait que bref, pour te résumer, test de valeur, test de français, premier pas franchi aujourd'hui. Le second, le plus important et le plus difficile, c'est avoir le feu vert du fédéral. La bonne nouvelle pour le gouvernement de la CAQ, c'est que le feu vert du fédéral, ça vient par règlement et non pas par projet de loi. Ce qui veut dire que ça peut se faire juste en signant un document. Tu n'as pas besoin de faire un gros débat à la Chambre des communes.
Mais ils ont besoin de quoi, au juste, Paul? Quand tu me dis qu'ils ont besoin du OK du fédéral, là...
Ils ont besoin d'un règlement du fédéral qui confirmerait le pouvoir du Québec d'ajouter des critères pour accepter un immigrant, pour lui donner sa résidence permanente. Ce que Simon-Jolin Barrette a répété à peu près 47 fois, c'est que ce pouvoir-là existait avant. Pour la première fois, je pense, sous Mme Gagnon-Tremblay, en 1993, la ministre libérale de l'époque. Par contre, en 2016, sous le gouvernement Couillard, les libéraux ont renoncé à ce pouvoir-là. Donc, il faut le réintroduire dans une loi. Et puisqu'on le réintroduit, on a besoin à nouveau de l'accord, de l'appui du fédéral, alors qu'on l'avait déjà à l'époque. Donc, c'est parce qu'il y a un recul qu'on a besoin de redemander le feu vert du fédéral.
OK. Je vais revenir à l'inventaire de 18 000 personnes. Là.
Oui.
18 000 dossiers, mais je veux aller à Carl d'abord. Carl, est-ce que tu penses que Ottawa va réagir favorablement à la demande, dans le fond, qui est contenue dans ce projet de loi?
Écoute, j'ai des doutes, sérieusement. Toute la question du test des valeurs, là, ça accroche beaucoup à Ottawa. Le gouvernement libéral va vouloir étudier et négocier fermement avec Québec à savoir qu'est-ce qu'il va avoir là-dedans. Et je te dis qu'il y a des gens qui vont surveiller de très près ce que Justin Trudeau va faire parce que du côté du Canada anglais, lorsqu'on parle d'un test des valeurs, on est très réfractaire à ce concept-là.
OK. Parle-nous des 18 000 dossiers qui se sont accumulés au fil du temps. Donc, des personnes là qui avaient soumis leur candidature pour immigrer au Québec, il leur arrive quoi avec ce projet de loi?
Ben la réponse, excuse-moi, j'ai pas entendu, Carl, mais si on parle du test des valeurs et de français, je comprends que c'est un gros irritant pour le fédéral. Ce que les gens vont répondre à ça à Québec, c'est qu'écoute, il y a déjà, on n'est pas dans la grande nouveauté. Tu as déjà, premièrement, depuis 2009, le Québec demande aux immigrants de remplir une déclaration dans laquelle ils disent souscrire à certaines valeurs comme l'égalité homme-femme puis la laïcité. Donc, ça existe déjà. Et pour ce qui est du français, les gens qui font partie du programme où c'est un travailleur, par exemple, ou un étudiant étranger mm-hmm. qui vient pour une durée limitée, puis une fois que tu es en sol québécois, tu aimes ça, tu veux avoir ta résidence permanente, puis ultimement devenir citoyen, bien, on leur demande à cette catégorie d'immigrants de passer un test de français. Donc, on n'est pas dans des choses radicalement nouvelles. Par contre, on peut se demander c'est quoi la pertinence d'un tel test. Est-ce qu'on va vraiment réussir à filtrer des gens qui posent problème? Puis est-ce qu'il y a vraiment des gens qui posent problème? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de présumer que les nouveaux arrivants ont des valeurs conflictuelles avec celles dites québécoises, alors qu'elles sont plus ou moins universelles? Donc, tu vois, tu as un peu les arguments des deux côtés de la médaille.
Mais moi, je veux savoir. Enfin, on verra là, ouais. Si Jolin Barrette a une réponse à cette question-là. Là, mais si effectivement, aujourd'hui, dans le fond, il propose de voter le cadre à l'intérieur duquel le test des valeurs sera soumis.
Exact.
Bon, ben, si tu le penses pas, le test des valeurs, il arrive quoi là? Est-ce que Jolin Barrette avait
question.
On le sait pas. Y avait-tu une réponse à cette question-là pendant son point de presse?
Non, lui, il voulait, il se contentait de répondre à ce que faisait le projet de loi. Il voulait pas s'aventurer okay. dans ces scénarios-là. Mais en effet, là, combien de fois on l'a répété, à quoi ça sert d'avoir un test si inapplicable
exact.
Parce que le fédéral ne veut pas expulser.
Si tu fais semblant de répondre aux bonnes réponses,
c'est ça. C'est une posture politique pour envoyer un message.
Ok.
Mais, ça sert-tu à quelque chose?
Juste avant d'aller à Carl, parce que je veux me garder du temps, c'est une grosse histoire à Ottawa. Là. Vite, 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 les 18 000 dossiers qui s'étaient accumulés, pas de journée, il arrive quoi avec ça? Là?
Il arrive qu'on les indemnise, carrément.
Donc, OK, mais donc depuis... on les indemnise, mais ils disparaissent. Là. Ils vont devoir resoumettre leur candidature s'ils veulent immigrer chez nous. Là.
Exactement. Il y avait 18 000 dossiers accumulés depuis 2005. Ouais. Des gens, en vertu du premier arrivé, premier servi, leur demande n'avait pas été traitée. Ce qu'on fait, on les indemnise à hauteur d'à peu près 1 000 par demande. Donc, ça va coûter 18 millions. Une facture, on efface tout ça. Si une partie de ces personnes-là sont intéressées, elles doivent resoumettre une autre candidature.
Avec la fameuse déclaration d'intérêt. Puis là, il faut voir s'il y a un emploi qui correspond, dans le fond, à leur intérêt professionnel.
C'est
OK, très bien. Carl Bélanger, première page du Globe aujourd'hui. En gros, le bureau du premier ministre Trudeau serait intervenu auprès de l'ex-ministre de la Justice pour qu'elle demande à ses procureurs de s'asseoir avec SNC-Lavalin et de régler à l'amiable les poursuites criminelles pour que SNC-Lavalin puisse, dans le fond, continuer à être éligible pour les contrats publics. Parce que s'il n'y a pas d'entente à l'amiable, SNC-Lavalin pourrait être barré de la possibilité de participer à des appels d'offres, par exemple, pour des gros contrats du gouvernement.
Exact. Et c'est lié à toute l'histoire des pots de vin versés à des officiels du gouvernement libyen. Ça s'est déroulé en 2001 et 2011. Donc, en 2015, SNC-Lavalin a été accusé. Et donc, là, ce qu'on apprend dans Globe, c'est que le bureau du premier ministre aurait tenté de convaincre la ministre de la Justice, Wilson Raybould, d'en venir à une entente. Faut dire que en février 2018, le gouvernement Trudeau a amendé le code criminel pour permettre justement la conclusion de ces accords.
C'est ça.
Pour permettre au procureur de la Couronne de suspendre les accusations criminelles contre des entreprises.
En échange de Reconnaissance de la faute, hein, reconnaissance de la faute, paiement, voilà.
Mais on effacerait la question criminelle de tout ça. À l'époque, là, quand c'était adopté, d'ailleurs, il y a plusieurs qui disaient que c'était une clause faite sur mesure pour SNC-Lavalin. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de lobbying sur cette question-là. Écoute, depuis 2017, là, il y a des représentants de SNC-Lavalin qui ont fait du lobbying à au moins une cinquantaine de reprises en matière de justice.
Mais donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je le dis tout de suite d'emblée, là, moi, SNC-Lavalin, s'ils reconnaissent leur faute, s'ils payent une bonne amende, s'ils font la preuve qu'ils ont changé leur processus, parce qu'il y a d'autres pays là, qui ont ces mesures-là, là, où il y a une forme de pardon qui est donnée, parce que l'alternative à ça, c'est qu'on perde SNC-Lavalin. Là. S'ils ne peuvent plus soumissionner pour des contrats au Canada, c'est évident qu'ailleurs dans le monde, ils vont les regarder et ils vont dire, ben là, regardez, si vous êtes des criminels, vous ne pouvez même pas soumissionner dans votre propre pays, on n'est pas intéressé à faire affaire avec vous autres. Ça pourrait avoir un impact très important. Il y en a même qui disent que ça pourrait mener à la fermeture du siège social ou au rachat de cette entreprise-là par une entreprise étrangère. On perdait un siège social à Montréal. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a eu une pression politique de la part du bureau du premier ministre pour favoriser cette entente?
Et le Globe and Mail dit que oui, il y a eu des pressions politiques. Il y en a qui parlent d'obstruction de justice, d'ingérence, évidemment, dans une affaire de corruption. On dit qu'il y a beaucoup de gens de SNC-Lavalin qui seraient proches du Parti libéral. Écoute, on a posé la question ce matin à Justin Trudeau. Est-ce qu'il y a eu effectivement des pressions du bureau du premier ministre Trudeau contre la ministre Justine Wilson-Raybould? Mm-hmm. Écoute ce qu'il y a sa réponse.
Les allégations dans le reportage de ce matin sont fausses. Ni moi, ni mon bureau n'avons demandé au procureur général actuel ou antérieur de prendre quelque décision que ce soit dans cet enjeu.
Ça, c'est assez ferme comme réponse. Là. Il n'y a pas de zone grise. C'est quoi le risque politique de Trudeau là-dedans?
Un peu, Bernard, sauf qu'il y a un mot très précis. Là. On n'a pas demandé à la ministre de prendre une décision. On n'a pas donné de directive, mais est-ce qu'on a fait des pressions? Est-ce qu'on a tenté de convaincre? Est-ce qu'on a eu des discussions fermes? Ça, c'est une chose. Puis la chose qu'on peut constater aussi, c'est que Wilson-Raybould ne voulait rien savoir et pas longtemps après, elle n'est plus ministre de la Justice.
Puis l'hypothèse qui circule à Ottawa, c'est que, ayant résisté, appelons ça, aux pressions du bureau du premier ministre Trudeau, elle aurait perdu sa job à cause de ça.
Elle en a payé le prix parce qu'elle ne voulait pas en arriver à une entente ou convaincre la couronne, les procureurs de la couronne d'en arriver à une entente avec SNC-Lavalin, voulait que la loi poursuive, que la justice suive son cours. Mmh. Et là, c'est là qu'il y a le problème. Et le premier ministre, là, c'est très, très précis. En anglais, on a tenté à plusieurs reprises d'y revenir et il disait, on n'a pas dirigé la ministre dans ce dossier-là, ni la ministre, le ministre actuel ou l'ex-ministre. Et
on lui a pas demandé de prendre une décision, de prendre une décision.
Voilà. Mais les pressions politiques qui viennent en disant faut que tu fasses ça, c'est autre chose que.
Mais est-ce que c'est amène-nous au bout là. Je veux dire que la ministre de la Justice ait des discussions avec le bureau du premier ministre sur un enjeu aussi sensible. Je comprends qu'il y a une séparation du pouvoir là, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir juridique, judiciaire. D'accord. Mais en même temps. Est-ce qu'il ne doit y avoir aucune discussion entre le bureau du premier ministre et la ministre dans un dossier aussi sensible qui concerne possiblement des milliers d'emplois?
On parle du code criminel, là, puis je vais te référer à l'article 139.2. C'est un acte criminel de volontairement tenter de quelque manière d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice. Et lorsqu'on a des pressions politiques pour tenter de mettre fin à un procès criminel, là, on entre dans ce territoire-là. La clause dont on parle tout à l'heure, qui en arrive à un accord, c'est au procureur de la couronne d'en décider et pas une décision politique. C'est ça qui est soumis comme hypothèse, que le politique n'a pas à s'immiscer dans le processus criminel. Et les accusations, enfin, les hypothèses, c'est que ça serait ce que le bureau du premier ministre Trudeau aurait tenté de faire.
Donc, ils auraient commis un acte criminel si on pouvait prouver qu'ils ont fait des pressions sur la ministre de la Justice?
Écoute, et l'allégation, c'est qu'on a congédié la ministre de la Justice parce qu'elle refusait de faire ce que le gouvernement voulait. Et ça fait penser à un autre procureur général aux États-Unis qui lui aussi a été dégommé parce qu'il n'obéissait pas au doigt et à l'œil aux politiques.
Puis il faut rappeler que la
commission Mueller là-bas.
Oui. Puis la journée du remaniement ministériel, souvenez-vous à quel point la ministre Raybould Wilson était d'une humeur massacrante, puis elle avait fait quelque chose de très, très inusité. Mm. Elle avait pris la peine d'écrire une lettre où elle se félicitait de son mandat
et de son travail.
Et de son indépendance, n'est-ce pas?
Oui.
Elle disait, moi, j'ai fait preuve d'une grande indépendance pendant que j'étais ministre de la Justice. C'est peut-être ce à quoi elle faisait référence.
Ça va rebondir aux communes cet après-midi, ça va être intéressant.
Ah oui, période des questions, 14h. Hein? Carl Bélanger et Paul Journet, merci à vous deux.
Merci.
Salut.
À demain.
Que ce soit à Montréal ou à l'extérieur, que ce soit en semaine, le week-end, c'est simple. Tous les matchs, seulement à la radio officielle des Canadiens de Montréal. 98.5. Avec Martin McGuire et Danny Dupé. Tous les matchs des Canadiens de Montréal.
Le Salon Expo Habitation de Montréal commence aujourd'hui. Ouvrez la porte aux grandes idées. Venez rencontrer des centaines d'exposants et visiter les maisons de rêve Alti et Xenia des Industries Bonneville. De judicieux conseils d'experts, plusieurs conférences gratuites et des milliers de produits et nouveautés vous attendent. Mettez la table pour vos grands projets de chalets, condos et maisons. L'Expo Habitation de Montréal, présentée par Diproprio jusqu'à dimanche au Stade Olympique. Rabais de 3 $ à l'achat de vos billets en ligne sur expohabitation.ca.
Voyagebergeron.com. Envie de grands choix de vacances au soleil? Pour mieux voyager, c'est Sunwing. Voyagebergeron.com.